Belle soirée sur France Culture. 22h, le journal.
Le journal vous est présenté par Nicolas Ballu.
Bonsoir à tous. L'Amazonie s'invite au G7. Des incendies de plus en plus nombreux et toujours incontrôlés menacent ce qu'on appelle le poumon vert de la planète. C'est désormais une crise internationale. Emmanuel Macron va proposer une batterie de mesures concrètes devant les 7 pays les plus puissants de la planète. Le chef de l'État, qui ne veut plus du traité de libre-échange avec les pays du Mercosur, il accuse le président brésilien de lui avoir menti. Une réaction plutôt bien vue en France, nous dira Julie-Marie Lecomte. Nous irons également à Berlin car le gouvernement allemand estime qu'il s'agit là d'une réponse inappropriée à la crise en Amazonie. Ludovic Piétenu sera avec nous en direct dans ce journal. Les entreprises peuvent-elles s'engager pour l'environnement et réduire les inégalités? Nous poserons la question à Annabelle Grelier. Plusieurs grands patrons se disent prêts. Ils étaient dans le bureau d'Emmanuel Macron ce matin. Et puis l'affaire Epstein. La justice ouvre une enquête en France pour viol et agression sexuelle. Les explications de Stéphane Paire dans ce journal. La tension est montée d'un coup à la veille du G7 à Biarritz. Chine et États-Unis ont relancé la guerre commerciale dans l'après-midi. Et les incendies gigantesques de l'Amazonie s'invitent également au rendez-vous des 7 pays les plus puissants de la planète. 700 incendies se seraient encore déclarés en 24 heures, ce qui se passait du jamais vu. Le président brésilien Jair Bolsonaro envisage d'envoyer l'armée. Mais depuis, devant son impuissance, les condamnations internationales se multiplient. La catastrophe se double d'une crise politique. Angela Merkel ou Boris Johnson ont clairement affirmé qu'il s'agissait d'une crise internationale qui dépasse donc le Brésil. Emmanuel Macron affirme qu'il proposera des mesures concrètes au G7. La France dira non au traité de libre-échange avec le Mercosur, fait savoir le chef de l'État, devant, je cite, l'inaction de Jair Bolsonaro face au changement climatique, y compris sur les incendies. Un coup de poing sur la table qui permet d'ailleurs au président français de travailler son image écolo, Julie-Marie Lecomte.
Quand il avait démissionné, Nicolas Hulot avait dénoncé la politique des petits pas d'Emmanuel Macron, opposé à l'accord. L'ancien ministre de l'Environnement applaudit. Aujourd'hui, Emmanuel Macron traite son homologue brésilien de menteur à l'Elysée. On assume, ce sont des mots simples qui collent à la réalité. Dans le secret de leur tête-à-tête lors du G20 au Japon en juin, Jair Bolsonaro avait promis des engagements concrets en matière de protection de l'environnement, raconte un conseiller. C'est à cette condition qu'Emmanuel Macron avait donné son feu vert à l'accord. Ces engagements, il ne les tient pas, sa seule réponse à l'urgence est de crier à l'instrumentalisation et à la manipulation. Il est dans le déni de la réalité. Le président français se montre seulement concret, dit son entourage. Un entourage qui dément au passage vigoureusement que Paris ait trouvé là une manière de sortir par le haut du processus de ratification, alors que tout l'été, la majorité a été confrontée à la colère des agriculteurs contre un autre traité de libre-échange, celui du CETA avec le Canada. Pour Jair Bolsonaro, parler de l'Amazonie ici à Biarritz, alors que le Brésil ne fait pas partie du G7, relève d'une mentalité colonialiste. Le sujet sera pourtant abordé dès demain soir, lors du dîner des dirigeants. Il est tout en haut de la pile, dit même un collaborateur de l'Elysée.
Julie-Marie Lecomte à Biarritz. Promis donc, Emmanuel Macron ne se saisirait pas de ce prétexte pour signer l'arrêt de mort du traité de libre-échange avec le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Plusieurs pays lui ont embrayé le pas, comme l'Irlande. En revanche, cette déclaration ne plaît pas du tout à Berlin. Ludovic Piétenu, bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Les déclarations du porte-parole du gouvernement allemand ce soir montrent que Berlin se désolidarise très clairement du président français. Pourquoi ?
Berlin s'en tient tout simplement au texte de l'accord. Selon ce porte-parole du gouvernement, il a bien été convenu de mettre en œuvre efficacement l'accord de Paris sur le climat et l'Allemagne s'y est engagée, dit-il, précisant donc que, d'une certaine façon, que le pays veille au grain, mais fait le choix de l'optimisme, du maintien d'une relation de confiance avec Jair Bolsonaro, le président brésilien, ainsi que les trois autres pays signataires. On ne parle pas d'un accord uniquement entre le Brésil et l'Union européenne. Berlin est donc pour préserver ce qui a été convenu au mois de juin, après 20 ans de négociations. Rappel tout de même, il y a 10 jours, à cause de la déforestation croissante en Amazonie, l'Allemagne s'était fâchée avec Bolsonaro en lui disant réfléchir à la suppression d'une subvention qui finance la protection de la forêt et de la biodiversité au Brésil. Bolsonaro avait alors déclaré à sa façon « Vous pouvez utiliser votre argent à bon escient, le Brésil n'en a pas besoin ». Et cela alors que des incendies ravageaient déjà la forêt amazonienne. À ce jour, Berlin n'a pas bougé, n'a toujours pas acté la suppression de cette aide financière. Et maintenant, l'Allemagne entend protéger cet accord commercial. C'est une diplomatie très prudente qui s'explique sans doute par la crainte d'une récession économique ici. Un tel accord ferait beaucoup de bien à l'industrie allemande, veut croire le gouvernement.
Merci Ludovic Piétenu en direct de Berlin. Évidemment, les Français et les Allemands en discuteront beaucoup à partir de demain à Biarritz, à 30 km de là, à Hendaye, en marge du contre-sommet du G7. Ce soir, quelques échauffourées ont éclaté dans les rues d'Hendaye. Autre volet de ce brusque accès de fièvre internationale, cette décision de la Chine de taxer certaines importations américaines sur environ 75 milliards de dollars. Dans une série de tweets à la tonalité agressive, Donald Trump a promis de répondre avec force. Le président américain ordonne aux autres entreprises américaines d'étudier la fermeture de leurs activités chinoises. Donald Trump, qui s'en est pris également au président de la Fed, la Banque centrale des États-Unis, son président serait pire que Xi Jinping, le président chinois. Il estime que la baisse des taux ne va pas assez vite. Cet après-midi, Jerome Powell avait promis d'agir pour soutenir l'expansion de l'économie des États-Unis, mais il a prévenu, la Fed n'a pas de mode d'emploi tout prêt pour faire face aux tensions commerciales. Il y a quelques jours, de grands patrons américains se disaient prêts à davantage de responsabilités sociales. Eh bien, ce matin, c'était au tour de plusieurs entreprises et grands groupes français de prendre position. Les grands patrons veulent former une sorte de coalition de patrons internationaux qui s'engagent pour l'environnement et contre les inégalités. Est-ce qu'on peut y croire, Annabelle Grolier ?
L'idée avait été lancée au sommet de la paix à Paris, c'était le 11 novembre dernier. La voilà maintenant officialisée au sommet du G7 à Biarritz. L'initiative est donc française. Elle consiste à créer une plateforme mondiale d'entreprises, abritée au sein de l'OCDE, des entreprises qui s'engagent à offrir des salaires décents à leurs employés, combler les écarts de salaire entre hommes et femmes, réduire les disparités territoriales, toute forme de discrimination. Bref, la liste est longue, mais en résumé, Milton Friedman, c'est du passé. À entendre les déclarations de ses grands patrons, la théorie du prix Nobel de l'économie qui posait le but premier d'une société de payer ses actionnaires, c'est terminé. Peut-on y croire ? En tout cas, il y a une réelle prise de conscience, il y a même urgence. Partout, les inégalités se creusent, les démocraties sont les unes après les autres fragilisées par la montée des populismes. Les manifestations violentes éclatent un peu partout dans le monde et le monde économique comme politique a compris qu'il faut changer. L'économie inclusive est devenue le mot d'ordre et tous les acteurs de l'économie sont en train de muer, au premier rang duquel la finance, pour exemple. Les plus grands fonds souverains d'investissement au monde, comme le fonds de Norvège, qui dispose de 870 milliards d'euros d'actifs, a entamé son grand virage écologique. Il oriente peu à peu tous ses capitaux vers l'économie durable. Même chose chez l'américain BlackRock. En résumé, les intentions sont là, le mouvement est lancé. Maintenant, on attend des actes, des actions et des effets dans notre quotidien.
Merci Annabelle Grenier. Ce coup de tonnerre en Tunisie, l'homme d'affaires Nabil Karoui, personnalité controversée et candidat à la présidentielle, a été arrêté ce soir. Également homme de médias, Nabil Karoui se présentait comme le candidat des plus démunis, mais il a été inculpé en juillet dernier pour blanchiment d'argent. Ses chances de participer au scrutin du 15 septembre semblent compromises. L'affaire Epstein passe par la France. Le millionnaire américain mort dans sa cellule aux États-Unis début août était suspecté de trafic sexuel et de pédophilie à l'encontre de centaines de jeunes femmes. Certaines d'entre elles avaient la nationalité française. Eh bien, le parquet de Paris vient d'une enquête préliminaire pour viol, agression sexuelle sur mineurs et association de malfaiteurs. Stéphane Père.
Les pressions en France ou aux États-Unis d'associations notamment s'accentuaient sur le parquet de Paris pour l'ouverture d'une enquête avec des raisons très concrètes. Non seulement des femmes, des victimes potentielles de Jeffrey Epstein de nationalité française étaient citées dans le dossier d'accusation américain, mais d'autres victimes et témoins français, plus d'une dizaine, se sont depuis la mort du millionnaire manifestés auprès d'associations françaises de défense du droit des enfants. Les signalements avaient été transmis au parquet de Paris dès le mois de juillet. De plus, Jeffrey Epstein avait des liens avec la France. Il était propriétaire de plusieurs domiciles dans l'Hexagone, dont un hôtel particulier à Paris, avenue Foch. Il voyageait très régulièrement entre la France et les États-Unis jusqu'aux derniers jours qui ont précédé sa mort. Il avait surtout des connaissances et des complicités potentielles en France, dans ce qui semble être l'un des pires scandales de trafic et d'agression sexuelle ces dernières années. Concrètement, le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire avec un champ très large. viol, agression sexuelle sur mineurs de plus et de moins de 15 ans, association de malfaiteurs. Les investigations sont confiées à un office rodé à ce genre d'affaires, l'OCRVP, l'Office central de répression des violences faites aux personnes, qui va tenter de vérifier si des agressions ou des viols attribués à Jeffrey Epstein ont eu lieu sur le territoire national mais aussi à l'étranger, contre des victimes françaises ou avec la complicité de Français.
Le temps, demain, il fera beau et chaud quasiment partout. Un peu de grisaille en début de matinée dans le Pas-de-Calais, mais elle sera bien temporaire. Les températures minimales de demain à Clermont-Ferrand, 9 degrés. En revanche, 16 à Paris et 19 à Marseille.